16. Tout général rompu au combat vous le dira, même pour une action de petite envergure, comme c'était le cas. Il vient toujours un moment où toute cohérence s'effondre, de même que toute suite et toute logique dans le déroulement des événements. Ce sont ces trous qui sont ensuite remaniés par les historiens. Il leur faut recréer le mythe de la cohérence, et ce besoin est peut-être une des raisons majeures de l'existence de l'histoire, à l'origine. Quoi qu'il en soit, nous avons atteint ce point. Celui où la bataille d'Algulciento décida d'elle-même de prendre une vie dans le camp des bons, et tout ce que je peux faire, c'est mettre en valeur des détails ça et là, en espérant que vous saurez vous-même remettre de l'ordre dans ce chaos généralisé. 17. Trampas, l'ignoble souffrant d'eczéma qui avait involontairement révélé tant d'informations à Ted, se précipita dans le flot de briseurs qui fuyaient la maison d'Amélie et en attrapa un ancien charpentier famélique à la calvitie marquée du nom de Birdie McCain.
« Birdie, qu'est-ce qui se passe ?»
hurla Trampas. Il portait son bonnet de pensée, ce qui signifiait qu'il ne pouvait partager le flux télépathique environnant.
« Qu'est-ce qui se passe ? Es-tu le... une fusillade ?»
brailla Birdie en se dégageant de l'emprise de l'ignoble.
« Ça tire de partout, ils sont là-bas »
fit-il en tendant vaguement la main derrière lui.
« Qui faites attention, bande d'imbéciles, il ne ralentit pas !»
aboya Gasqui Otego quelque part dans leur dos. Trampas leva les yeux et constata avec horreur que le plus gros des camions de pompiers déboulait au milieu de l'allée, en vrombissant et en brinque-ballant, tout feu étincelant, flanqué de deux pompiers en acier accrochés à l'arrière. Pimli, Finley et Jacqueline firent un bond de côté, de même que Tassa le domestique. Mais Tammy Kelly gisait face contre terre dans le gazon, dans une soupe de sang qui se répandait à vue d'œil. Elle s'était fait aplatir par l'équipe d'intervention anti-incendie Bravo, qui n'avait pas réellement combattu d'incendie depuis plus de 800 ans. Au moins, Tammy ne se plaindrait-elle plus jamais ? Et dégagez le passage, claironna le camion de pompiers. Derrière lui, deux de ses congénères firent une embardée rouge vif, contournant chacun la maison du gardien par un côté. Une fois encore, Tassa le domestique sauta hors de la chaussée, juste à temps pour sauver sa peau. Place à l'équipe d'intervention anti-incendie Bravo. Une excroissance métallique se souleva au milieu du corps du camion, se scinda en deux et s'ouvrit. Un tourniquet métallique se mit à lancer des jets d'eau sous pression dans 8 directions différentes. « Dégagez le passage pour l'équipe d'intervention anti-incendie Bravo !» Et James Cagney, le Taïn qui discutait avec Gasqui dans le vestibule du dortoir de Féveral lorsque les ennuis avaient commencé, vous vous rappelez ? Comprit ce qui allait se passer et se mit à hurler à l'intention des gardes qui sortaient de l'aile ouest de Damli en titubant, les yeux rougis, crachant leurs poumons, certains avec le pantalon en flammes, et quelques-uns, oh, gloire à Gan, à Bessa et à tous les dieux, munis d'armes. Cag leur cria de dégager le passage et s'entendit à peine lui-même dans ce brouhaha. Il vit Roger Rastosovitch en tirer deux sur le côté et vit ce gamin, Earnshaw, en pousser un autre sans ménagement. Une partie des rescapés toussant et sanglotant aperçut le camion qui fonçait droit sur eux et le groupe se dispersa de lui-même. La seconde d'après, l'équipe d'intervention anti-incendie Bravo faisait un strike parmi les gardes de l'aile ouest, encore à sa portée, sans ralentir une seconde, creusant un sillon depuis la maison d'Amélie, faisant gicler de l'eau tous azimuts.
« Eh ? D'où Jésus, non ! »
gémit Pimli Prentice. Il se plaqua les mains sur les yeux. Finley, quant à lui, fut incapable de détourner le regard. Il vit un ignoble, Ben Alexander, il l'aurait presque juré, se faire broyer par les énormes roues du camion. Il en vit un autre se faire emplafonner par la grille du pare-choc, puis écraser contre le mur de la maison d'Amely, faisant voler éclats de bois et de verre, puis traversant une cloison partiellement dissimulée derrière un massif de fleurs étiolées. Une roue bascula dans la cage d'escalier menant à la cave et une voix synthétique se mit à marteler. « Accident ! Prévenir la caserne ! Accident !»
« Sans déconner, Sherlock !» se dit Finley en regardant le sang sur la pelouse, avec une sorte de fascination écœurée. « Combien de ces hommes et de ces précieux pensionnaires, ce foutu camion détraqué, avait-il broyé ? 6 ? 8 ? Une putain de douzaine ?»
De derrière la maison d'Amely monta de nouveau ce pan-pan-pan effrayant, le cri des armes automatiques. Un gros briseur du nom de Waverly le bouscula. Finney l'attrapa avant qu'il ait pu filer.
« Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui vous a dit d'aller au sud ?»
Contrairement à Trampas, Finley ne portait aucun couvre-chef et le message « Tous au sud, main en l'air, vous aurez la vie sauve ». Lui martelait le crâne avec une telle force qu'il lui était quasiment impossible de penser à quoi que ce fût d'autre. À côté de lui, Pimley, luttant pour reprendre ses esprits, se saisit de cette pensée scandée et y imprima une des siennes.
« C'est forcément Brötigan pour s'emparer d'une idée et l'amplifier à ce point. Qui d'autre ?»«
Et ?» Gasqui attrapa Cag, puis Jacqueline, et leur cria de réunir tous les gardes armés et de les mettre au travail pour encadrer les briseurs qui se dirigeaient vers le sud par l'allée, et aussi par les rues de part et d'autre de l'allée. Ils le regardèrent avec des yeux écarquillés et ahuris, des yeux où se lisait la panique. Et il crut qu'il allait se mettre à hurler de fureur. Et voilà que déboulaient les deux autres camions de pompiers, toutes sirènes dehors. Le plus gros des deux percuta deux briseurs, les projetant au sol et leur roulant dessus. L'une de ces nouvelles victimes était Joey Rastosovitch. Quand le camion fut passé, labourant l'herbe de ses pneus à air comprimé, Tania tomba à genoux aux côtés de son mari mourant et leva les mains vers le ciel. Elle s'époumonait. Pourtant, Glaski l'entendait à peine. Des larmes de frustration et de peur perlèrent au coin de ses yeux.
« Sale chien !» se dit-il. « Sale chien qui nous prennent en traître et... »
Au nord du complexe d'Algul, Susanna sortit à découvert et avança sur la triple clôture. Cette initiative ne faisait pas partie du plan, mais ce besoin de continuer à tirer, de continuer à les démolir, était plus fort que jamais. Elle ne pouvait tout bonnement pas s'en empêcher, et Roland t'aurait compris. En outre, la fumée qui montait en tourbillonnant de la maison d'Amely avait momentanément obscurci tout le secteur. Les rayons rouges des lacères striaient l'air, tour à tour visibles et invisibles, comme une sorte de message en morse. Et Susanna se rappela qu'il ne fallait pas qu'elle se place sur leur ligne de mire, à moins de vouloir se retrouver avec un sillon de 5 cm de largeur sur toute la longueur du corps. Elle utilisa les balles de la coyote pour couper la clôture de son côté. Couche externe, couche intermédiaire, couche interne. Et disparut dans la fumée qui se dissipait tout en rechargeant. Et... Le briseur du nom de Waverly essaya de se dégager de l'emprise de Finley.
Nenni, nenni, pas de ça, je te prie, pensa Finley.
Il empoigna plus fermement l'homme, qui avait été bibliothécaire ou quelque chose dans ce genre dans sa vie d'avant Algul, et le rapprocha de lui, puis le gifla 2 fois, avec une telle force qu'il s'en fit mal à la main. Waverly poussa un cri de douleur et de surprise.
« Qui est embusqué là, derrière, bordel ?» grogna Finley. « Qui est en train de faire ça, putain ?»
Les camions de pompiers s'étaient immobilisés devant la maison d'Amely et déversaient des tombereaux d'eau dans la fumée. Finley ne savait pas si ce serait utile, mais au moins ça ne ferait pas de mal.
Et au moins ces foutus engins n'étaient pas allés s'écraser contre l'immeuble qu'ils étaient censés sauver, comme l'avait fait le premier.
« Monsieur, je n'en sais rien !»
sanglota Waverly. Le sang coulait à gros bouillons d'une de ses narines et du coin de sa bouche.
« Je ne sais pas, mais il doit y en avoir 50, peut-être même 100 de ces diables. C'est Dinky qui nous a fait sortir. Dieu bénisse Dinky Earnshaw !»
Pendant ce temps, Gasky Otego enveloppa sa grosse main autour de la nuque de James Cagney et la deuxième autour du cou de Jacqueline. Gasky avait comme l'impression que ce fils de pute, de tête de corbeau de Jacqueline, était sur le point de se carapater en courant. Mais ce n'était pas le moment de se préoccuper de ce genre de choses. Il avait besoin des deux.
Hey, « Hé, patron !» cria Finley. « Patron, attrapez le gamin Earnshaw. Il y a quelque chose qui pue dans cette histoire. »
Et, avec le visage de Cag appuyé contre une joue et celui de Jacqueline contre l'autre, la fouine, qui ne pensait pas plus clairement que tout le monde en cette sinistre matinée, réussit finalement à se faire entendre. Gasky, quant à lui, répétait ses ordres, aller chercher les gardes armés et les positionner autour des briseurs en débâcle. « N'essayez pas de les arrêter, mais restez avec eux, et au nom du ciel, faites attention qu'ils ne se fassent pas électrocuter. Gardez-les à distance de la clôture, s'ils dépassent la rue principale. » Mais il ne put finir son sermon. Une silhouette surgit de l'épais nuage de fumée et piqua droit sur lui. C'était Gangly, le médecin du complexe, sa blouse blanche en feu, ses rollers toujours aux pieds. Et, secoué par une quinte de toux, Susanna Dean prit néanmoins position au coin arrière-gauche de la maison d'Amelie. Elle vit trois de ses salopards, Gasky, Jacqueline et Cagney, si elle avait su leur nom. Avant qu'elle ait pu viser, le tourbillon de fumée les masqua de nouveau. Lorsqu'il se dissipa, Jacqueline et Cag avaient disparu, partis battre le rappel des gardes armés pour leur faire jouer les chiens de berger, chargés au moins de protéger leurs brebis paniquées, même s'ils ne parvenaient pas à les arrêter tout de suite. Gasky était toujours là, et Susanna le cueillit d'une seule balle dans la tête. Pimley ne s'en aperçut pas. Il devenait clair à ses yeux que toute cette confusion n'était que de surface, et très vraisemblablement orchestrée. La décision des briseurs de migrer loin des attaquants situés au nord d'Algul leur était venue un peu trop vite. Tout ça était un peu trop organisé.
« Peu importe, Earnshaw, se dit-il, c'est à Brotigan que je veux parler. »
Mais avant qu'il ait pu retrouver Ted, Tassa se jeta contre lui en une étreinte frénétique et terrifiée, bredouillant que la maison du gardien était en feu et qu'il avait peur, terriblement peur, que tous les vêtements du maître, tous ses livres. Pimley Prentice le repoussa avec brutalité, d'un coup de poing terrible sur le côté du crâne. Le pouls de la pensée unifiée des briseurs, non plus bon esprit mais mauvais esprit désormais, battait, jacassait. Main en l'air, vous aurez. Follement sous son crâne, menaçant de réduire à néant toute pensée autre. C'était cet enfoiré de Brotigan qui avait fait ça, il le savait. Et ce salopard était trop loin devant, à moins que... Pimley regarda le pacemaker entre ses mains, l'observa un moment, puis le fourra dans son croc de débardeur, sous son bras gauche. Il voulait ce putain de Brotigan vivant. Ce putain de Brotigan avait quelques explications à lui fournir, sans compter ce foutu boulot de briseur qu'il n'avait pas terminé. Pan, pan, pan! Des balles volant partout tout autour de lui. Des gardes humains courant en tous sens, des taïnes et des cantois en pleine déroute. Et d'où Jésus, si peu d'entre eux étaient armés. Surtout des humes descendus pour leur ronde dans la clôture. Ce responsable des briseurs n'avait pas réellement besoin d'armes, parce que dans l'ensemble, les briseurs étaient aussi dociles que des perruches et l'idée d'une attaque provenant de l'extérieur paraissait totalement ridicule, jusqu'à... jusqu'à ce que ça se produise, se dit-il en apercevant Trampas du coin de l'œil.
Trampas,
braya-t-il.
Trampas, hé, cow-boy, attrape Earnshaw et amène-le-moi. Attrape Earnshaw.
Au milieu de l'allée, le bruit était un peu moins assourdissant et Trampas entendit très clairement la requête de Cy Prentice. Il partit en flèche sur les traces de Dinky et saisit le jeune homme par un bras et...
La jeune Danica Rostov, 11 ans, sortit du tourbillon de fumée qui obscurcissait à présent tout le bas de la maison d'Amely, traînant 2 chariots rouges derrière elle. Danica avait le visage rouge et enflé. Des larmes lui coulaient des yeux. Elle pliait sous l'effort tandis qu'elle tirait Bage, assis dans l'un des chariots à jouets, et Sège, assis dans l'autre. Tous deux avaient une tête énorme et de petits yeux pleins de sagesse, le faciès de surdoué hydrocéphale, mais Sège était affublé de 2 moignons de bras qui l'agitaient. Tous deux bavaient abondamment et poussaient des halètements entrecoupés de haut-le-cœur.
« Aidez-moi !»
réussit à supplier Danny, prise d'une quinte de toux effroyable.
« Que quelqu'un m'aide avant qu'il s'étouffe !»
Dinky l'aperçut et se dirigea vers elle. Trampas le retint, même s'il paraissait clair que c'était à contre-cœur.
« Non, Dink !» dit-il sur un ton d'excuse, mais avec fermeté. Laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. Le patron veut te par... »
Et c'est alors que réapparut Brottigan, le teint livide, la bouche réduite à une simple ligne, comme une couture lui barrant le bas du visage.
« Lâche-le, Trampas. Je t'aime bien, mon vieux, mais ne t'avise pas de te fourrer dans nos pattes aujourd'hui. » « Ted, qu'est-ce que... »
Dink se dirigea de nouveau vers Danny. Trampas le tira de nouveau en arrière. Plus loin, Bage s'évanouit et bascula tête la première du chariot. Il eut beau atterrir sur l'herbe tendre, sa tête produisit un horrible bruit de fruits pourris qui éclate. Comme si son crâne se fendait en deux et Danny Rostov poussa un hurlement. Dinky plongea dans sa direction. Trampas le retint une nouvelle fois plus violemment. Ce faisant, il dégaina le Colt Woodsman 38 qu'il portait dans son propre croc de débardeur. Il n'était plus temps de raisonner. Ted Brottigan ne s'était plus servi de sa lance mentale depuis l'attaque du voleur de portefeuille à Akron en 1935. Il ne l'avait pas même utilisé lorsque les ignobles l'avaient rattrapé à Bridgeport, Connecticut, en 1960, même si la tentation avait été déchirante. Il s'était promis de ne plus jamais y avoir recours, et il n'avait certainement aucune envie de la lancer sur... Souris, en disant ça, Trampas, qu'il avait toujours traité avec décence. Mais il lui fallait se rendre à l'extrémité sud du complexe avant que l'ordre soit rétabli, et il avait bien l'intention de s'y rendre en compagnie de Dinky. Et puis, il était furieux. Pauvre petit Bage, toujours prêt à sourire à tout le monde, pour un oui ou pour un non. Il se concentra et sentit une douleur sourde et nauséeuse lui vriller le cerveau. La lance mentale vola. Trampas relâcha Dinky et adressa à Ted un regard de reproche incrédule que ce dernier devait se rappeler jusqu'à la fin de ses jours. Puis Trampas s'agrippa la tête de chaque côté comme un homme en proie à la migraine la plus effroyable de l'univers et tomba raide mort sur la pelouse. La gorge gonflée et la langue pendant de la bouche.
« Allons-y !» s'écria Ted en saisissant Dinky par le bras.
Dieu merci, Prentice avait momentanément détourné le regard, distrait par une nouvelle explosion.
« Mais... « Danny et Sège, elle peut s'occuper de Sège. »
Puis il envoya mentalement le reste de son message.
« Maintenant qu'elle n'a plus à tirer Bage en même temps. »
Ted et Dinky détalèrent, tandis que Pimley Prentice se retournait, contemplait le corps de Trampas d'un air hébété et leur braillait de s'arrêter au nom du roi cramoisi. Finley Otego brandit son arme, mais avant qu'il ait pu tirer. Danica Rostov avait fondu sur lui, le mordant et le griffant.
Elle ne pesait presque rien, mais sur le coup, son attaque le prit tellement par surprise qu'elle faillit presque le renverser à terre. Il enroula un bras poilu et musclé autour du cou de la petite et la fit voler de côté, mais alors Ted et Dinky étaient déjà presque hors de portée. Contournant la maison du gardien par le côté gauche pour disparaître dans la fumée. Finley stabilisa son arme à deux mains, inspira profondément, retint son souffle et tira un seul coup. Le sang jaillit du bras du vieil homme. Finley l'entendit crier et le vit vaciller. Puis le jeune chien attrapa le vieux cabot et ils coupèrent au coin de la maison.
« Je ne vous lâcherai pas !» tempêta Finley dans leur dos. « Oui, là, j'arrive, et quand je vous attraperai, je vous ferai regretter d'être né !»
Mais bizarrement, cette menace sonna horriblement creux. À présent, toute la population d'Algul Siento, Briseur, Taïn, Garde Hume, Cantois, avec leur troisième œil sanguinolent rougeoyant au milieu du front, était emporté par le raz de marée vers le sud. Et Finley constata une chose qui ne lui plut pas du tout. Dans ce flot mouvant, les briseurs, et seuls les briseurs, avançaient les mains en l'air. S'il se trouvait d'autres écumeurs plus loin sur la route, il n'aurait aucune difficulté à distinguer ceux à épargner de ceux à abattre froidement, n'est-ce pas? Et, dans sa chambre du troisième étage du dortoir Corbett, toujours à genoux au pied de son lit recouvert de bris, de verre, toussant à cause de la fumée qui entrait par bouffées par la fenêtre béante, Chimmy eut la révélation qui l'attendait. Ou bien son imagination s'adressa à lui au choix. Quoi qu'il en soit, il bondit sur ses pieds. Ses yeux, habituellement amicaux, mais toujours déconcertés par un monde qu'il ne comprenait pas totalement, étaient clairs et remplis de joie.
« Le rayon dit grand merci !» cria-t-il à la pièce vide.
Il regarda autour de lui. Heureux comme Ebenezer Scrooge, découvrant que les esprits avaient tout fait en une seule nuit, et se précipita en courant vers la porte, ses chaussons faisant crisser le verre pilé éparpillé par terre. Un éclat acéré se planta dans son pied, portant la mort sur sa pointe, s'il avait su, grand pardon, dite Discordia. Mais dans sa liesse, il ne sentit rien. Il fonça dans le vestibule, puis dévala les escaliers. Sur le palier du deuxième étage, Chimmy croisa une vieille briseuse du nom de Belle O'Rourke, la prit dans ses bras et la secoua comme un prunier.
« Le rayon dit grand merci »
hurla-t-il à la femme ahurie qui le regardait sans comprendre.
« Le rayon dit que tout peut encore s'arranger, pas trop tard, juste à temps !»
Il bondit de nouveau, pressé d'aller annoncer la bonne nouvelle, bonne pour lui en tout cas, et... Dans la rue principale, Roland te regarda d'abord Eddie Dean, puis Jack Chambers.
Ils arrivent, et c'est là qu'il va nous falloir les accueillir. Attendez que je donne l'ordre, et alors, tenez bon et soyez sincères.